Vivre FM, podcast.
Recherche et partage, jusqu'à midi sur Vivre FM, Blandine Lacour.
Bonjour et bienvenue dans Recherche et partage, comme tous les troisièmes samedis du mois sur Vivre FM. Aujourd'hui, c'est simple, on va parler de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Deux raisons à cela. La première, c'est que cette convention sert de base conceptuelle au projet de recherche soutenu et financé par la FIRA. Donc, autant comprendre de quoi il s'agit. Et la deuxième raison, c'est que cette convention, ratifiée par la France en 2010, a changé la donne. Enfin, peut-être pas vraiment, mais elle aurait pu, elle aurait dû. Enfin, on va se pencher sur la question à l'heure où des rapports sont en rédaction par les États, par la société civile. Nous allons nous interroger à juste titre pour savoir quelles ont été ou seront ou pas les répercussions de cette convention sur la vie des personnes handicapées en France, puisque c'est juste de ça qu'il s'agit. Alors ne zappez pas, recherche et partage, c'est tout de suite sur Vivre FM. Bonjour, donc et bienvenue dans Recherche et Partage. Avec moi autour des micros, Philippe Chervin, secrétaire général de la FIRA, Fondation internationale de recherche appliquée sur le handicap. Bonjour Philippe. Et Philippe Mier, délégué général du CFHE, le Conseil français des personnes handicapées pour les questions européennes. Bonjour Philippe. Bonjour. Aussi. Alors on va essayer de... Que les auditeurs vous reconnaissent peut-être à votre voix pour savoir qui parle. En tout cas, je vais commencer avec Philippe Chervin, sûrement, donc secrétaire général de la FIRA, avec vous, parce que on va faire le lien d'abord entre cette convention dont on va parler et la FIRA. Cette convention, c'est le premier critère dans la sélection des projets de recherche qui sont soutenus par la FIRA. Il faut que les recherches qui vont être soutenues et financées rentrent dans le cadre conceptuel de cette convention. Pourquoi cela ?
Alors nous avons pensé donc à la Fondation de recherche appliquée sur le handicap qu'il était important dans le cadre de nos appels à projets pour pouvoir évaluer les différentes propositions que nous recevons d'avoir un cadre conceptuel qui respecte les nouvelles approches du handicap. Donc, pour cela, nous avons la classification internationale du handicap, donc qui considère que les situations de handicap ne sont pas uniquement dues aux facteurs personnels des personnes, mais aussi à leur environnement, hein, et donc qui ont tendance à promouvoir un modèle social en essayant de trouver des solutions, non pas uniquement dans l'amélioration ou le changement des facteurs personnels, mais aussi en faisant un travail sur l'environnement qui les entoure. Donc nous avons aussi choisi la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, parce que dans cette convention, il y a une série de principes qui sont... nommés au départ, des principes qui concernent la non-discrimination, des principes qui concernent l'égalité de chance, la liberté des choix des personnes. Et ça aussi, c'est des choses que l'on veut retrouver, en fait, que l'on souhaite retrouver dans les appels à projets de recherche que l'on finance, parce que on veut développer une recherche qui va permettre de trouver des solutions concrètes pour pouvoir appliquer en fait ces principes que l'on retrouve dans la convention. Et ça, c'est quelque chose d'important, parce que comme on va avoir l'occasion de le dire pendant toute cette réunion, on a souvent l'impression que cette convention, c'est une convention sur les droits des personnes, donc c'est une convention qui n'a d'intérêt en fait que dans les tribunaux, alors que c'est pas ça du tout. On va essayer d'utiliser cette émission pour expliquer ça, mais c'est vraiment une convention qui, par les principes en fait qui la dirige, peut vraiment orienter des actions pour mener des bons projets de recherche, mais aussi pour mener des services pour les personnes handicapées qui respectent le choix des personnes, pour mener un tas d'actions pour les personnes handicapées. Elle peut toujours être un cadre intéressant.
On va rentrer un peu plus tard dans les détails de cette convention, mais à vous entendre, on se dit deux choses. D'abord, est-ce qu'il a fallu attendre cette convention ? On l'a dit, elle a été ratifiée en 2010 par la France, alors on se demande avant comment on aurait fait. Et puis, qu'est-ce qu'elle amène réellement de plus comme outil, ou comme vous dites, cadre conceptuel ? Parce qu'on a l'impression que les sujets dont vous venez parler, c'est un peu du bon sens. C'est-à-dire que la personne handicapée est une personne, j'allais dire, comme les autres, qui doit donc bénéficier des mêmes droits que les autres. On se dit, est-ce qu'on en est là? On a encore besoin de se dire, on va prendre cette convention pour être sûr que les projets de recherche développés vont rentrer dans le cadre de ces principes-là?
C'est vrai que ces changements qui ont eu lieu par rapport au regard qu'on a porté, à la compréhension qu'on a porté sur le handicap et les situations de handicap, c'est vrai que ça s'est pas fait grâce à la convention du jour au lendemain. Par contre, je pense que ce texte de la convention, quelque part, il a posé ses principes en fait dans la loi internationale en fait, et à partir de là, ce texte-là est une étape importante. Donc c'est pas lui qui a tout fait. Mais il a pu effectivement poser ses principes dans un cadre international. Il y a eu, avant que cette convention soit rédigée, il y a eu un débat où beaucoup de gens se sont dit, voilà, si on veut un modèle qui est vraiment inclusif, on peut penser que la Déclaration des droits de l'homme et les droits en fait qui s'adressent à l'ensemble des humains sont suffisants et pas besoin de faire une convention spécifique. Ça pourrait être à l'encontre de l'inclusion en fait. Hein. Or, il y a eu un rapport qui a été rédigé par Teresa Degener et Gerald Quinn qui a prouvé en fait que si on ne considère que les conventions qui traitent des droits de l'homme en général, on s'aperçoit que ces conventions, elles ne parlent jamais des personnes handicapées. Et donc, en fait, il y a un vide. C'est-à-dire que bien sûr que les personnes handicapées font partie de l'ensemble des humains, mais par contre, elles ne sont pas du tout traitées dans le cadre des droits de l'homme. Et puis, on sait aussi que une fois qu'il y a eu les conventions générales sur les droits de l'homme, on sait aussi que quelque temps après, il y a eu des conventions spécifiques par rapport aux races, après des conventions spécifiques par rapport à la femme, par rapport aux enfants. Il y a eu la convention sur le droit des enfants qui est bien connue. Donc en fait, on a vu que c'était important pour certaines populations qui étaient extrêmement discriminées en fait de faire des conventions spécifiques. Et c'est dans ce cadre-là et en toute logique qu'on a eu une convention sur la question du droit des personnes handicapées. Et cette convention, en fait, quand on l'observe, on s'aperçoit qu'elle ne parle pas des droits des personnes handicapées, elle parle des droits de l'homme et elle met en avant quelles sont les mesures nécessaires pour que les personnes handicapées puissent avoir un accès aux droits de l'homme en général.
Philippe Millet, cette fois.
Oui, juste pour compléter ce que disait Philippe Chervin. C'est vrai que les droits de l'homme, ils sont là depuis longtemps, en fait. Et les personnes handicapées doivent bénéficier des droits de l'homme. Ça, c'est en théorie, parce que dans la pratique, dans la vie quotidienne des gens, ils peuvent pas exercer leurs droits fondamentaux et leurs libertés fondamentales. Et cette convention, elle est là justement pour dire quels sont les obstacles qui existent aujourd'hui, qui font qu'ils ne peuvent pas jouir de leurs droits et de leurs libertés fondamentales comme les autres. Donc, ils ont pris les textes des droits de l'homme, article par article, en se disant dans le domaine de l'éducation, de l'emploi, des transports, de l'habitat, tous les droits fondamentaux, quels sont les obstacles identifiés qui font que les personnes qui vivent des situations de handicap ne peuvent pas les exercer comme les autres. Donc c'est la raison pour laquelle, en fait, ils ont choisi de faire ce texte, et c'est les organisations de personnes handicapées elles-mêmes qui ont été motrices dans l'écriture de cette convention internationale. Ce qui change fondamentalement aujourd'hui, c'est que c'est une approche droit de l'homme. Et en France, on n'a jamais entendu que c'était une approche droit de l'homme pour les questions de personnes handicapées. C'est en cela où c'est quelque chose de nouveau.
Mais vous dites c'est quelque chose de nouveau, mais je trouve ça un petit peu contradictoire, parce que les droits de l'homme, on l'a vu, c'est quand même pas nouveau. Les personnes handicapées sont avant tout des personnes, donc elles rentrent dans ces droits de l'homme. Réécrire des conventions pour essayer d'inclure ces personnes-là, alors qu'elles sont déjà de fait incluses, on a envie de dire, c'est peut-être pas ça qui va résoudre le problème. C'est peut-être que le problème est ailleurs. Il est pas dans la énième convention à écrire, ou le énième rapport, ou la énième loi. Et on a eu en France, nous, la loi de 2005. Et vous allez sûrement en dire un mot l'un ou l'autre pour nous dire en quoi elle diffère de cette convention, en quoi la convention est peut-être supérieure, d'ailleurs, à la loi. Mais voilà, on a l'impression qu'il y a quand même un décalage entre ce qu'il faudrait faire, et en urgence, et le fait d'écrire une convention.
Normalement, elle devrait être inclue dans la vie quotidienne, mais c'est pas le cas, je veux dire. Depuis longtemps, on a fait des dispositifs particuliers on n'a pas fait en sorte que les personnes puissent avoir accès aux droits communs. Donc c'est vrai que les droits de l'homme, ils sont là. Mais je veux dire, dans la réalité, il y a eu beaucoup de ségrégation, de dispositifs différents pour les personnes en situation de handicap, ce qui fait qu'on n'a pas appliqué une organisation digne des droits de l'homme.
Alors Philippe Miel le disait à l'instant, cette fois-ci ce sont les organisations de personnes handicapées qui ont été, alors à l'origine je ne sais pas, mais en tout cas qui ont participé à la rédaction de cette convention. Ça a changé quoi dans la convention qu'on ait inclus les personnes handicapées dans la rédaction, hein, je veux dire.
Ce processus qui est dirigé par les Nations Unies pour rédiger ce type de convention, que ça soit celle sur la non-discrimination des femmes, le droit des enfants, le droit des personnes handicapées. Aujourd'hui, il y a d'autres conventions qui sont dans les esprits en préparation. On pense à une convention sur les personnes âgées, on pense aussi à une convention sur la préférence sexuelle. En fait, il y a des nouvelles conventions qui vont apparaître. On s'aperçoit qu'elles sont pas faites au hasard, elles sont faites par rapport à des populations qui sont plus discriminées que les autres. Et c'est ce qui justifie, en fait, la nécessité d'avoir des textes en fait pour les protéger.
Et sur le fait que les personnes handicapées là aient été invitées à la rédaction et à la réalisation.
Ce qui s'est passé dans un processus comme ça, c'est les États qui les dirigent. Hein. Donc effectivement, c'est les États qui ont voté et qui ont décidé de faire une convention. Mais après, ce qui s'est produit, c'est que en fait, les organisations représentant les personnes handicapées qui passaient à cette convention depuis de nombreuses années, en fait, sont arrivés extrêmement préparés. Donc, sont arrivés effectivement avec aussi dans l'esprit les règles standards, en fait, qui existaient au niveau des Nations Unies depuis 10 ans. Et donc, ils ont su effectivement pousser un mouvement, en fait, qui tendait vers le modèle social du handicap et qui n'était pas fixé sur le modèle médical qui est uniquement tourné vers effectivement les facteurs personnels, les déficiences et les incapacités des personnes. Hein. Donc on a vraiment eu une convention qui a tout à fait cadré par ce que souhaitaient les organisations de personnes handicapées dans le cadre des droits de l'homme. Et donc elles ont apporté une dynamique extrêmement intéressante parce qu'elles étaient vraiment prêtes en fait pour traiter de ce sujet-là. Alors que si les États avaient peut-être traité le sujet sans ces organisations de la société civile, on se serait retrouvé avec des modèles plus médicaux, plus centrés sur les facteurs personnels, et on n'aurait pas eu une convention vraiment basée sur les droits de l'homme, mais plutôt basée sur le médico-social, je dirais.
Puisque vous avez l'air assez optimiste sur cette convention, Philippe, on va revenir avec vous et avec Philippe Millet dans un instant pour continuer d'en parler et voir en quoi peut-être que du coup, cette fois, ça pourrait changer quelque chose pour les personnes handicapées.
11h midi, recherche et partage avec la FIRA sur Vivre FM, Blandine Lacour.
De retour donc dans recherche et partage avec nos deux invités aujourd'hui, Philippe Chervin, secrétaire général de la Fondation internationale de recherche appliquée sur le handicap, la FIRA, notre partenaire pour cette émission, et Philippe Millet, délégué général du Conseil français des personnes handicapées pour les questions européennes, le CFHE. Avec nos deux invités, nous parlons de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, cette convention qui a été ratifiée par la France. Et on le disait il y a un instant dans cette émission, c'est important de faire une convention spécifique pour les droits des personnes handicapées parce que peut-être que parmi les populations discriminées, le handicap, ne serait-ce que de par le nombre de handicaps qu'on peut recouvrir sous ce mot handicap, et c'est peut-être encore plus important de faire une convention qui précise les choses pour ces personnes-là par rapport, on pensait tout à l'heure aux différences de race ou de couleur de peau. Pour les personnes handicapées, c'est encore plus criant ce besoin de préciser les choses, Philippe Millet.
Ce que les personnes nous disent et ce qu'elles vivent, c'est qu'il y a des obstacles qui sont créés par l'environnement, qui vont pas spécialement créer des obstacles pour d'autres types de discrimination. Et en France, la loi du 11 février 2005 a permis d'avancer sur cette question-là, en disant que une situation de handicap, c'est pas seulement l'incapacité d'une personne à réaliser quelque chose, c'est aussi comment l'environnement crée un empêchement pour les personnes pour participer à quelque chose. Et ça, c'est spécifique aux personnes qui ont différents types de déficiences. Un escalier de 10 marches, je veux dire, va créer une barrière pour des personnes mais qui va pas créer de barrières pour d'autres types de discrimination. Donc, ils ont identifié à travers cette convention tous les obstacles qu'il pouvait y avoir, et c'est de là qu'est venue cette idée d'accessibilité et de conception universelle, qui est un des éléments parmi d'autres, ou comment penser organiser la société, d'un point de vue architectural, d'un point de vue physique, d'un point de vue environnemental, pour que ça ne crée pas des situations de non-participation des personnes dans l'exercice de leurs droits.
Est-ce que finalement, cette convention relative aux droits des personnes handicapées devrait pas être la seule, j'ai envie de dire, puisque vous le disiez à l'instant, c'est l'environnement qui peut générer des handicaps au-delà des problèmes physiques ou mentaux qui peuvent être ceux de la personne. Donc finalement, n'importe qui peut se retrouver dans cette convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Être femme peut être parfois un handicap, être homosexuel peut être parfois un handicap. Finalement, cette convention-là, elle devrait chapeauter un peu toutes les autres, puisqu'on va prendre en compte la diversité des handicaps, qu'ils soient physiques, psychiques et autres. Et vous citiez à l'instant la convention de 2005. Qu'est-ce que ça amène en plus? La loi de 2005, par contre, sur le handicap en France, on a eu cette loi. 5 ans après, on ratifie la convention. Qu'est-ce qu'elle amène en plus? Est-ce que la loi de 2005 ne suffisait pas, en tout cas en France, sur ces questions du handicap pour avancer dans des politiques plus inclusives?
C'est ce qui a été dit à l'époque. L'élaboration de la convention, c'est 2006. Et en France, on a eu la loi du 11 février 2005. Dans la loi du 11 février, on retrouve les mots citoyenneté, participation, égalité des chances. Mais on a encore revu la question du handicap uniquement dans certains domaines. On n'a pas fait défiler tous les droits de l'homme et voir quels étaient les obstacles. C'était relativement restreint par rapport à un certain nombre de thèmes. La grande avancée de la loi du 11 février, ça a quand même été de dire que l'environnement pouvait créer des situations de handicap et qu'il fallait travailler sur l'environnement. L'environnement d'une façon très large, l'environnement juridique, l'environnement physique, l'environnement comportemental, tous ces facteurs-là. Mais disons que la loi du 11 février n'est pas allée assez loin dans le spectre de tous les droits fondamentaux qu'il pouvait y avoir. Et elle considère quand même, encore une fois, que on n'est pas sur le droit commun totalement, même si une des grandes avancées de la loi du 11 février, c'était de dire il faut de l'accessibilité, avec un grand A. Dans tous les domaines, et après, de la compensation. Mais c'est d'abord de l'accessibilité, du droit commun, et ensuite de la compensation, et pas l'inverse. Et c'est là où la Convention internationale va beaucoup plus loin dans les principes, dans la conception même de la question du handicap. Même dans la définition, nous, les associations, on a remis en question depuis un certain nombre de points sur la définition, ou dans la définition de la Convention des Nations Unies, on parle des personnes, d'abord, avec leurs droits, mais en même temps, c'est l'interaction entre un environnement et des incapacités qui crée des situations de participation, des situations de handicap. Ce qui n'est pas le cas dans la loi du 11 février.
Philippe Chervin de la FIRA, vous êtes d'accord avec cette analyse, alors que la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et offre une base plus intéressante et plus forte pour développer des politiques inclusives pour les personnes handicapées?
Oui, tout à fait, mais je pense aussi que, mais ça c'est dû aussi au texte en lui-même, c'est la convention. Moi je vous conseille tous les auditeurs de trouver facilement sur internet le texte de la convention. C'est limpide, il fait, comme disait Philippe tout à l'heure, défiler les différents droits de l'homme, et pour chacun d'entre eux il explique effectivement quelles sont les mesures spécifiques à prendre en compte pour que les personnes handicapées puissent jouir de ces droits de l'homme. Le texte de la loi de 2005 est un texte juridique beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile à comprendre en fait. Donc là, il y a déjà quelque chose de différent. Et puis je pense que on est vraiment avec la convention dans un modèle en fait qui est très 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 transversal, c'est-à-dire que on peut prendre la convention et s'imaginer en fait comment la mettre en place à travers des politiques, et puis de se dire que voilà, il faut qu'il y ait au sein de chaque ministère, par exemple pour le ministère de l'Éducation, pour le ministère des Transports, pour le ministère de l'Emploi, il faut que au niveau de chacun de ces ministères chaque ministère pense à la question du handicap et intègre la question du handicap dans leur politique. Et ce qui est préconisé, c'est que après, un peu plus haut, dans le cadre d'un conseil interministériel, il y a vraiment une entité qui va contrôler si chacun des ministères, en fait, a bien pris en compte le handicap et si ça donne des résultats en termes de prise en compte des personnes handicapées. On est dans un modèle qui est très transversal, très inclusif. Et ça, c'est quand même un outil formidable de ce côté-là. Je pense que sur la loi 2005, on n'est pas du tout dans ce même principe. Jusqu'à là, ça reste du médico-social élargi avec quelques mots, citoyenneté et autres, mais bon, on n'est pas quand même là-dessus.
Admettons, vous m'avez convaincu, c'est important qu'on ait cette convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Mais là, dans votre discours, on entend. Alors du coup, il faudrait. Voilà. On l'a ratifié, la France a ratifié la convention en 2010. On est quelques années après. Il y a des. La France est en train de rédiger un rapport. Vous allez nous en parler peut-être, Philippe Mihez, dans un instant. Vous êtes un des acteurs. Enfin, en tout cas, votre organisation, le Conseil français des personnes handicapées pour les questions européennes, qui un des acteurs de la société civile qui participe à la rédaction d'un rapport alternatif. On va revenir sur ces deux rapports dans un instant. Mais du coup, on en est où? Parce que, à entendre Philippe Chervin à l'instant, on nous dit il faut, mais est-ce que depuis 2010, du coup, ça a changé? Est-ce que ça, dans les faits, au niveau des politiques, il y a eu des changements?
Ça change tout doucement, très doucement. Alors, je voulais juste dire quand même que si ce texte il est important, c'est qu'aujourd'hui, c'est la ligne de force de tous les pays européens aussi. L'Union européenne a également ratifié la Convention. C'est la première fois que l'Union européenne en tant que telle ratifie une convention internationale. Donc elle prend des engagements elle aussi, comme tous les pays européens. Donc on n'a pas des pays qui disent voilà, on va avoir une vision des questions de handicap par la réadaptation, l'aspect médical et autres. Tous les pays européens ont comme ligne de mire l'application des droits de l'homme. Donc avec des obstacles qui sont différents suivant les pays. Les pays du Nord, scandinaves, il y a longtemps, eux, qu'ils ont pris la ligne des droits de l'homme pour faire des politiques en faveur des personnes handicapées. La meilleure preuve, c'est qu'ils n'ont pas fait de politique spécifique. Ils ont inclus dans leur politique, dans l'éducation, dans l'emploi, des dispositifs, des organisations qui permettent aux personnes de trouver leur place, comme tout à chacun. Alors, en France, par rapport à la loi du 11 février, on essaie de faire un travail. Alors, ce qui a changé, c'est peut-être, je vois, le fait que il y ait maintenant une délégation, un conseil interministériel, c'est-à-dire qu'on dise que toutes les questions de handicap, ça concerne tout le monde, à travers les politiques inclusives, c'est des politiques transversales. Quand on parle de logement, on va pas faire du logement spécifique pour les personnes handicapées, on va voir comment dans une politique de logement, on peut inclure les questions d'habitat également et de conception du logement pour les personnes. Dans les politiques de l'emploi, comment on inclut ça? Il y a une prise de conscience beaucoup plus importante au niveau des ministères de la prise en compte du handicap. Il y a une circulaire qui est parue maintenant il y a 2 ans qui oblige normalement chaque ministère à avoir un référent sur les questions de handicap à la fois à partir de la loi du 11 février et de la convention. Dans la réalité, on a beaucoup de mal à voir qui s'occupe de ça. Il y a des noms, mais je veux dire, on ne sait pas si ces gens ont vraiment intériorisé ce que pouvaient être les conséquences d'une politique droit de l'homme dans leur ministère. Ça, c'est un travail de longue haleine. Il y a une responsabilité de l'État, des ministères, il y a une responsabilité des associations, il y a une responsabilité sociétale par rapport à cela. Puisque le fondement des politiques d'inclusion, c'est quand même la Convention internationale, et c'est pour tous, c'est pas uniquement pour les personnes en situation de handicap. C'est comment on conçoit aujourd'hui une société, une organisation où on prend en considération les besoins particuliers des uns et des autres, le plus possible.
Donc les droits relatifs aux personnes handicapées, des droits qui vont servir à toutes et à tous, d'où l'importance de s'intéresser au sujet. On y revient avec vous dans un instant sur Vivre FM.
Jusqu'à midi, recherche et partage sur Vivre FM, Blandine Lacour.
Et de retour avec Philippe Chervin de la FIRA, secrétaire général de la FIRA, c'est ça, Fondation Internationale de Recherche Appliquée sur le Handicap, et Philippe Mihez, à mes côtés aussi, délégué général du Conseil français des personnes handicapées pour les questions européennes. On parle toujours de cette convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Philippe Millet, vous nous disiez à l'instant que tout cela est plutôt positif, qu'il y a eu des changements, on a eu des personnes nommées, notamment dans les ministères, dans les cabinets. Donc, on a l'impression que ça bouge un peu, très doucement, certes, mais quand même un petit peu. Alors, à l'heure où la société civile va rédiger son rapport sur que s'est-il passé depuis qu'on a ratifié cette convention, qu'est-ce qu'on va dire dans ce rapport? On va se féliciter l'État en disant bien joué les gars, ça avance, ou on va dire au contraire oui mais non, ça n'avance pas assez vite, parce qu'on a l'impression quand même que dans le quotidien des personnes handicapées, et c'est ça qui nous intéresse, eh bien ça ne change pas beaucoup.
Ah ben ça, on est convaincu que ça change pas beaucoup au niveau du quotidien des personnes. Ça, je veux dire, on est optimiste, mais plutôt inquiet par rapport à cela, parce que d'une part la convention n'est pas connue. On peut pas dire que l'État français en a fait la promotion. Il n'a jamais fait la promotion. On commence juste à en parler dans les textes, mais dans la vie quotidienne des gens, je veux dire, ça va prendre du temps, beaucoup de temps, parce que on est dans des changements assez fondamentaux dans la vision justement des dispositifs, des organisations. Mais justement, notre combat, il est là. Dans le rapport, on va sûrement pas... nous, ce qu'on va faire, il y a le rapport de l'État qui doit sortir d'ici la fin de l'année. On est un peu inquiet parce que l'ONU, le comité des droits à l'ONU qui examine des rapports, il essaie de voir réellement quels sont les écarts entre les textes de la Convention et si elle a été réellement mise en œuvre en France. Et je veux dire, on peut être inquiet sur un certain nombre de sujets, en tout cas. Quant à nous, on va faire un rapport aussi, on va reprendre les articles un par un en disant, voilà, dans le domaine de l'éducation, de l'emploi, voilà les écarts qu'on trouve entre les textes législatifs, parce qu'il peut y avoir des écarts, les politiques, et puis la vie quotidienne des gens, les pratiques. Les gens qui peuvent pas exercer leurs droits, on va le dire, en matière d'éducation, d'emploi, et pourquoi ils ne peuvent pas les exercer. Ce que nous, on souhaite, c'est vraiment qu'il y ait une prise de conscience sur comment la convention peut être un outil dans l'élaboration des politiques, et après que les gens, au quotidien, puissent en voir la couleur. Je prends l'exemple du numérique, par exemple. L'accessibilité numérique. Dans l'article 9 de la Convention, il y a un article accessibilité, et dedans, on met l'accessibilité physique, mais également numérique. Aujourd'hui, il y a une explosion du numérique, avec les sites web, avec Internet. Mais je veux dire, nous, on se bat, et la Convention se bat pour que dans la conception même des sites web, du numérique, ils puissent y avoir une place qui est faite pour l'accessibilité aux personnes qui ont des difficultés d'accessibilité, de personnes aveugles ou d'autres personnes. Donc c'est dans la conception même du matériel, des biens, des services, qu'il faut dès à présent penser à cette conception par une volonté politique, de façon à ce qu'on ne crée pas encore des situations de handicap qui vont surhandicaper les personnes qui ont des problèmes, des incapacités. Donc on voit bien que c'est en amont qu'il faut agir à partir des principes qui sont dans la Convention même.
Philippe Cherlin.
Il faut, quand ce rapport va sortir, il va falloir regarder des choses comme par exemple, voilà, il y a la loi de 2005, elle a dynamisé en fait tout ce qui est éducation inclusive, c'est-à-dire la présence d'enfants handicapés, leur prise en compte par rapport à leurs besoins dans les écoles ordinaires. Ça, on va pouvoir le regarder, parce que la Convention, elle est tout à fait dans cette dynamique-là, la Convention des Nations Unies. Donc, on va pouvoir regarder si, effectivement, concrètement, au niveau de notre bon territoire français, est-ce que dans les écoles, on a des auxiliaires de vie scolaire pour les enfants? Est-ce qu'on a su adapter les écoles en termes d'accessibilité? Donc, on va pouvoir regarder ça.
Vous dites, on va pouvoir regarder ça. J'allais dire, aujourd'hui, déjà, on sait que, de toute façon, du coup, on ne pourra pas se réjouir complètement et qu'il y a un décalage. Il va se passer quoi, du coup, quand l'État va rendre ce rapport à la Commission, à l'ONU? Est-ce qu'on va lui taper sur les doigts? Est-ce qu'on va imposer? Est-ce qu'on va obliger, au minimum, accélérer ces politiques-là?
Alors, on est dans un dispositif, en fait, qui est un dispositif de suivi des conventions de droits de l'homme. Donc, effectivement, quand ça remonte au niveau du comité international, le comité international, il va étudier le rapport de l'État et puis le rapport alternatif qui vient de la société civile. Et à partir de là, il va émettre des commentaires. Ces commentaires, effectivement, souvent un État comme la France, il aime pas trop avoir des critiques par rapport à ça. La France, c'est quand même le pays des droits de l'homme. Donc, à partir de là, c'est quand même des choses qu'un gouvernement français n'aime pas trop entendre, et donc on peut penser que par rapport à des commentaires négatifs, il va essayer de rectifier le tir pour aller vers quelque chose de plus acceptable en fait. Hein. Maintenant, on n'est pas dans un tribunal, on est au niveau des Nations Unies, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une force de frappe dissuasive qui va venir effectivement punir le pays qui n'aurait pas respecté ce type de convention. Par contre, il y a des pressions qui sont des pressions diplomatiques qui sont importantes sur les États qui ne respectent pas ces conventions-là.
Philippe Millet, on le voit, ça va être un jeu de pression, de discussion, de négociation pour faire avancer les choses. Deux remarques. Est-ce que finalement, c'est pas un mythe? Est-ce qu'on veut pas voir un peu trop haut, trop loin, et que du coup, on n'obtient pas ce qu'il faudrait peut-être de façon un peu plus urgente? Voilà, donc là-dessus, est-ce que faudrait pas revenir à des choses peut-être plus simples, plus pratiques, plus quotidiennes justement pour la vie des gens? Et deuxième question, est-ce que du coup le rapport alternatif va peser aussi et en amont pour peut-être faire en sorte que l'État accélère un petit peu les choses?
C'est fait pour ça, pour la deuxième question, c'est-à-dire que les rapports, c'est fait justement pour mesurer l'écart qu'il y a entre l'idéal de l'application des droits de l'homme et puis la réalité. Dans certains domaines, on va bien voir quand même les écarts qu'il y a, parce que il va falloir les mesurer, ces écarts-là. Et nous, on fait tout pour qu'il puisse y avoir des chiffres qui nous disent, par exemple, combien d'enfants sont scolarisés dans le milieu dit ordinaire, combien dans l'emploi il y a de personnes qui bénéficient de dispositifs dans l'emploi ordinaire. Donc, on va essayer de voir concrètement. Ça, c'est un gros travail actuellement de se dire comment on peut évaluer l'application des droits de l'homme dans à travers des statistiques et des chiffres, sachant qu'il y a des aspects qualitatifs et des aspects quantitatifs. Mais je veux dire, le travail de ce rapport, on sait que c'est un processus, c'est-à-dire que la convention, elle va pas pouvoir être appliquée du jour au lendemain, mais c'est un phare qu'on doit essayer de tendre vers, en tout cas. Et ça doit nous permettre, dans tous les domaines, de voir comment les personnes peuvent réellement exercer leurs droits. Et pas par d'autres... C'est pas une tolérance, c'est-à-dire l'école, l'enfant qui doit aller à l'école parce qu'on va tolérer ou parce qu'il y a quelqu'un de bienveillant, c'est pas ça, c'est un droit. C'est un droit, donc comment on le met en œuvre? C'est-à-dire c'est pas simplement des mesures de compensation, c'est comment l'école, c'est la responsabilité de l'école de s'organiser pour l'accueillir, mais ça concerne aussi d'autres enfants, pas seulement des enfants en situation de handicap.
Et sur ma deuxième remarque, il faut aller de toute façon plus loin, il faut voir effectivement très grand, il faut espérer, rêver que... On ait des droits et de l'accessibilité partout pour essayer d'en avoir un peu?
On a besoin d'un idéal comme ça. On a besoin de cette lecture des droits de l'homme. Parce que si on n'avait pas cette lecture, on est passé en France à travers plein de modèles. Le modèle de la charité, le modèle de la réadaptation, le modèle médical dans le regard sur les personnes handicapées. Simplement se fixer sur l'essentiel, c'est-à-dire qu'ils puissent exercer, comme tout à chacun, leur liberté au quotidien et leurs droits. Je veux dire, ça, c'est quelque chose qui est assez fondamental. Et on doit, chaque fois qu'on travaille avec les personnes, se poser cette question. Qu'est-ce qui lui manque pour qu'il puisse exercer ses droits et ses libertés? Et notre travail, c'est ça, essentiellement ça.
Vous le disiez à l'instant, et dans la convention, je crois que c'est inclus, il faut médiatiser en fait cette convention et médiatiser cette idée d'avoir une accessibilité des droits pour les personnes handicapées dans tous les domaines. L'urgence, elle est là, il nous reste 2 minutes de parler de ça, je sais pas qui veut répondre, mais sur comment on fait pour médiatiser? Est-ce que c'est à ça que ça doit servir avant toute autre chose, effectivement, de parler au grand public et de changer un peu le regard des gens?
Tout à l'heure, j'ai demandé à nos auditeurs de trouver la convention qui est très facile à trouver sur le web et de la lire. Ça, je pense que c'est important que les gens s'en emparent. Donc, effectivement, il faut peut-être la médiatiser avec d'autres supports de communication, mais c'est vrai qu'il faut la mettre au centre du débat. Maintenant, il faut pas rêver. La Convention des Nations Unies, c'est un texte qui a été produit à New York avec des États divers et variés. Mais, comme disait Philippe tout à l'heure, cette convention, elle montre un cap, une direction qui est très importante. Après, les questions de savoir comment on fait pour adapter une école pour qu'elle soit inclusive, c'est aussi des questions de proximité, c'est des questions qui vont se discuter avec les acteurs de terrain. Donc, il ne faut pas non plus penser que la convention, elle va donner toutes les solutions à toutes les réponses. Par contre, je pense que la direction qu'elle montre, dans quelle direction il faut aller, là, elle a vraiment... quelque chose de très très fort. Il y a un point sur lequel on n'a pas trop insisté pendant cette émission et qui est très transversal dans la Convention, c'est la participation des personnes handicapées. Elles sont constamment sollicitées dans la Convention pour participer, que ça soit pour négocier les politiques publiques ou d'avoir leur parole dans les établissements où elles se trouvent, ou de décider quelle politique au niveau de leur village ou de leur localité. Ça, c'est un des caps de la Convention. Les personnes handicapées doivent être des acteurs pour décider de toute action pour elles.
Alors une première victoire déjà, la participation des personnes handicapées. Un dernier mot, Philippe Millet aussi là-dessus.
Juste sur la question de la médiatisation, je ne sais pas si c'est la première fois que vous parlez de la Convention ici, mais en tout cas, nous, dans le rapport qu'on va établir, il va falloir juger si on parle de la Convention en France. Et on va demander à la société civile si les gens ont entendu parler de cette Convention. Et on va voir ce que les médias ont fait, n'ont pas fait dans ce domaine-là. C'est ça notre rapport, c'est montrer l'écart entre ce qui aurait dû être fait et ce qui doit être fait.
En tout cas, Vivre FM fait son boulot. Nous, on parle de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées sur cette antenne et grâce à la FIRA, Fondation internationale de recherche appliquée sur le handicap, puisque l'émission est en partenariat avec la FIRA. Un dernier mot pour vous dire que, Philippe, vous disiez, allez sur le web et lisez cette convention. Vous pouvez aussi aller sur le site de la FIRA, www.fira.org, et dans le centre ressources notamment de la FIRA, il y a tout un tas d'informations pour comprendre cette convention et voir de quoi il en retourne. Si vous voulez aussi proposer des projets de recherche à la FIRA, eh bien c'est sur le site aussi que vous trouverez toutes les informations. Quant à cette émission, vous la retrouverez en podcast bientôt sur le site de Vivre FM. Et d'ici là, il faut qu'on vous laisse, qu'on vous souhaite un bon appétit, un bon week-end à l'écoute de Vivre FM.